Mon intervention ce matin s'intitule, de ce matin, voilà, j'ai toujours l'habitude de parler matin de ce soir, s'intitule « Le roman n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, imaginaire du commencement dans quelques essais sur le roman ». Les genres littéraires sont des produits artistiques dont l'origine historique est des plus obscures, affirme Karl Vietar dans un article de 1931, traduit de l'allemand et intitulé « L'histoire des genres littéraires ». Le caractère obscur de cette origine n'est peut-être pas étranger à l'existence de tout un imaginaire des genres littéraires, si bien sûr un tel imaginaire il y a, tel que le postule le titre de notre dernier panel de la journée. Mais à l'intérieur de l'éventail des genres littéraires, qu'en est-il de l'origine plus précise du roman comme genre? Et si le roman, parmi tous les genres littéraires, et ce n'est là qu'une préposition, avait une origine tout particulièrement obscure, particulièrement incertaine, notamment en l'absence de mythes fondateurs unifiés? Ne cohabite-t-il pas plutôt dans la façon commune d'envisager l'histoire du roman, donc aussi bien celle des critiques que celle des écrivains, plusieurs mythes fondateurs, plusieurs origines possibles, au genre romanesque? N'y a-t-il pas là un terrain tout à fait propice au déploiement de tout un imaginaire de ce genre littéraire? C'est du moins une proposition que renforcent les travaux de Mme Sophie Badeau, qui dans son article « Il était plusieurs fois le roman, ou comment les critiques narrent les commencements du roman », s'intéresse à la manière dont plusieurs critiques, notamment Bakhtin, Marthe Robert, Albert Thibaudin, pour ne nommer que ceux-là, posent l'origine du roman et la relatent en des termes éminemment narratifs. Il faut dire que les critiques ne sont pas les seuls à s'intéresser au commencement du roman, loin de là. Les praticiens, c'est-à-dire les romanciers eux-mêmes, lorsqu'ils revêtissent leur sarrau d'historien du genre romanesque, comme c'est souvent le cas dans le discours extra-romanesque qu'ils tiennent sur leur art, cherchent eux aussi à poser le commencement du roman, comme j'ai pu le découvrir en parcourant le corpus de ma thèse. Ce corpus est celui d'une douzaine d'essais sur le roman, ayant été écrits par des romanciers et publiés en France depuis les années 50 jusqu'aux plus récentes manifestations de cette pratique. Certains titres sont très connus, on peut penser à « L'art du soupçon » de Nathalie Sarraute ou encore à « La triade d'essais » de Milan Kundera, alors que d'autres n'ont pas du tout connu la même postérité critique et littéraire, comme par exemple « Le roman en liberté » de Félicien Marceau. Donc, l'essai, et tout particulièrement l'essai sur le roman, étant une forme plus extensive, je dirais, de réflexion sur le romanesque que peuvent l'être, par exemple, la préface ou la chronique, cette forme apparaît être un lieu privilégié si l'on s'intéresse à l'imaginaire du genre romanesque du point de vue des praticiens, pour employer à nouveau cette expression de Milan Kundera. Mentionnons qu'à des degrés divers, ces essais ont tous en commun de raconter l'histoire du roman, et là aussi, évidemment, en des termes éminemment narratifs, une histoire qui, vous vous en doutez, n'est à peu près jamais la même, mais, et c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement, comporte un certain nombre d'épisodes et de traits formels récurrents. Parmi ceux-ci, la porte d'entrée dans cette histoire, la nécessité de poser son commencement. Mon propos ne prendra pas la forme aujourd'hui d'une étude systématique, mais naviguera plutôt et assez librement entre différents essais sur le roman que j'ai sélectionnés. Soit, j'en ai apporté quelques-uns, donc « Roman du roman » de Jacques Laurent, 1977, « L'invitation au mensonge » publié un an plus tard, donc 1978 de Gilles Barbedette, « En lisant, en écrivant » avec... C'est vraiment un titre avec lequel je triche un peu, puisque c'est plutôt un essai sur la littérature, mais dans lequel il est, disons, largement question du roman. Donc, 1980. Ensuite, nous avons « Les Testaments trahis et le rideau » de Kundera, c'est 93 et 2005. Et le tout dernier, très controversé, « L'enfer du roman » de Richard Millet. Voilà. Je me pencherai d'abord sur l'importance des récits de commencement du roman, avant de m'intéresser à une forme plus précise qu'ils prennent souvent, la naissance. Nous verrons ensuite qu'au motif de la naissance répond celui de la mort. Et si mon propos jusque-là aura été, de présenter ce motif, de restituer son mouvement, d'en déplier la problématique, dans une sorte de conclusion synthèse, je vous soumettrai une de mes hypothèses du moment qui m'incite à effectuer un rapprochement entre ce corpus d'essais et une certaine branche de la critique littéraire du tournant du 20e siècle. Donc, première partie, de l'importance de poser le commencement du roman. J'ai fait un petit plan sur mon exemplier, si jamais vous voulez me suivre comme ça. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, à peu près tous les essais sur le roman que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à maintenant ont en commun de mettre en scène un moment décisif de cette histoire, poser le commencement, lequel est différent pour chaque romancier essayiste, même si par ailleurs, certains d'entre eux partagent ce qu'on pourrait appeler le même père fondateur. Cervantes est assez populaire à cet égard, mais nous ne sommes jamais dans le même récit de commencement. Donc, je propose que nous lisions ensemble, disons en détail, deux de ces récits de commencement, afin d'en dégager certaines grandes caractéristiques. D'abord, celui de Gilles Barbedette, tiré de l'Invitation au mensonge. Barbedette, pour qui le roman, j'insiste, commence beaucoup plus avec Don Quichotte qu'avec Cervantes. J'y reviendrai en commentant l'extrait qui se trouve au premier point sur la feuille. Donc, je lis la conception. Est-ce que tout le monde en a un? C'est bon. Donc, la conception statique des êtres et des choses a été bouleversée le jour où la littérature ne s'est plus contentée de produire de serviles imitations en jouant avec nos incertitudes. Et le plus émouvant dans cette scission, c'est que l'aventure moderne de la dérision et de la parodie a pris naissance dans le plat à barbe de Don Quichotte. Donc, je m'arrête ici pour vous souligner que pour Gilles Barbedette, aventure moderne de la dérision et de la parodie, c'est une expression qu'il utilise souvent et c'est en fait synonyme de roman. Barbedette est un anti-réaliste convaincu, ou plutôt un irréaliste, comme il le dit lui-même. Il milite, du moins dans cet essai, pour une littérature romanesque qui, loin de tenter d'imiter le réel ou de le représenter, se conçoit comme artifice, comme art et comme folie. Deuxième remarque, le roman comme genre, donc puisque c'est bien de cela dont il est question, prend ici naissance à l'intérieur d'une œuvre avec Don Quichotte le personnage, encore plus qu'avec Don Quichotte l'œuvre, comme en témoigne l'absence d'italique dans la citation. J'ajoute que c'est là, à mon avis, une des caractéristiques premières des histoires littéraires écrites à partir de la perspective praticienne ou indigène, pour employer ici l'expression de Vincent de Banne. Le sort de la littérature, et ici le sort du roman, se joue souvent à l'intérieur des œuvres romanesques elles-mêmes, à l'intérieur de leurs diégèses, à l'intérieur de leurs univers. Sont placés sur le même plan les œuvres, les personnages et les auteurs de ces mêmes œuvres, tous appelés à devenir des acteurs de cette histoire du roman, comme nous le verrons vers la fin de l'extrait. Mais entre-temps, poursuivons-en la lecture. Don Quichotte n'est pas le premier roman moderne de la tradition européenne. Je dis européenne, là je reprends la citation 1 au milieu. Okay. De la tradition européenne. Je dis européenne car trop souvent on oublie, comme le fait Milan Kundera, des splendeurs des romans japonais classiques qui sont antérieurs de 5 siècles au chef-d'œuvre de Cervantes. L'édit de Jani, je ne sais pas si je prononce bien, là, de Madame Murasaki Shikibu, est incontestablement un roman et d'une nature bien plus audacieuse que certaines de nos fables modernes. Et par ailleurs, en dehors des trésors japonais, il nous reste quelques vieux bijoux antiques. L'Andor d'Apulée n'est-il pas aussi un roman? Encore une fois, nous avons trop souvent tendance à accorder un sens restrictif aux origines de notre modernité. Le chauvinisme culturel ou l'ignorance servent parfois de prétexte à de douteuses généalogies littéraires. Je m'arrête un petit peu pour commenter à nouveau. D'abord, poser le commencement du roman devient ici l'occasion de rectifier le propos d'un autre romancier essayiste, Milan Kundera, d'entrer en dialogue avec un autre essai sur le roman. Bien que Barbedette et l'auteur de l'art du roman attribuent au romanesque le même père fondateur, notons qu'il y en a deux pour Kundera, là, Cervantes et Rabelais, Barbedette donc en profite pour critiquer l'européocentrisme de Kundera et, à l'intérieur d'une simple parenthèse, proposer d'autres commencements au roman, des commencements alternatifs. Barbedette cherche à élargir le domaine du roman, aussi bien sur le plan temporel, en y faisant entrer une œuvre antique comme Apulée, que sur le plan géographique, en y faisant entrer une œuvre japonaise du 10e siècle, comme le dit Gianni. Notons que pour Barbedette, l'histoire du roman est mondiale, peut-être encore plus que chez Milan Kundera, et ce faisant, poser le commencement du roman est déjà l'occasion de le décloisonner, notamment vis-à-vis de la tradition française et plus largement européenne. Reprenons maintenant la lecture de ce récit de commencement qui nous replonge au cœur du roman de Cervantes. Je lis. Don Quichotte est bien autre chose que ce qu'on a dit. Que ce qu'on a dit. Il a commencé avant tout par devenir l'ancêtre du noir ricanement de la littérature irréaliste. Autrefois, les bookmakers donnaient Sancho Panza gagnant. Or, l'évidence impose de dire que le chevalier à la triste figure l'emporte à tous les coups. Ses fantaisies démentes finissent par être la seule réalité de référence pour le fidèle écuyer. C'est pourquoi ce roman marque l'avènement et la toute-puissance du reflet poétique dans la littérature. Et la citation. Voilà. Le sort de la littérature et par-dessus tout l'avènement du roman, du moins du roman tel que Gilles Barbedette le conçoit et l'entend, se joue dans la joute qui oppose Don Quichotte à Sancho Panza. La victoire de Don Quichotte, c'est la victoire de la littérature comme excentricité, comme parodie, comme artifice. C'est le triomphe de l'art sur la vie. Bref, tout ce qui caractérise justement la vision du roman de Gilles Barbedette, comme en témoigne d'ailleurs le titre de son essai, « Le mensonge romanesque », c'est-à-dire le roman comme mensonge et non comme vérité. Ainsi, nous pouvons d'ores et déjà percevoir en quoi les récits de commencement sont des moments charnières, sinon le moment crucial, les histoires du genre romanesque racontées dans les essais sur le roman. Le commencement est non seulement déterminant pour la suite de chaque histoire, mais il valide une conception du roman plutôt qu'une autre. En ce sens, bien que les essais sur le roman racontent l'histoire du roman en des termes, comme je l'ai dit depuis les débuts, éminemment narratifs, bien qu'ils soient extrêmement métaphoriques, ils sont aussi puissamment rhétoriques. Aussi rhétoriques que le sont, par exemple, les écrits théoriques de Bakhtine, lorsque le critique fait naître le roman sous le signe du dialogisme et de la polyphonie, ces mêmes caractéristiques étant, selon lui, le propre du romanesque. En d'autres termes, les récits de commencement, les essais sur le roman inversent les rapports de causalité. C'est en fonction de ce qu'est le roman maintenant que l'on peut poser son commencement, et certains récits portent des traces explicites de cette inversion logique. C'est le cas du récit de commencement raconté par Jacques Laurent dans « Roman du roman », et celui-ci nous servira de deuxième exemple. Donc, c'est le point 2 sur l'exemplier. Je lis. « Après l'écroulement du monde antique, plus de romans. D'abord une salade mixte où les accès d'autorité s'harmonisent férocement avec les accès d'anarchie. La loi des armes et le jugement de Dieu. Quand la littérature réapparaît, elle est retombée au niveau épique. Roman de chevalerie, roman courtois, roman breton, ces romans ne peuvent pas être pris au pied du mont. Déclamés par les troubadours ou par les trouvères, appréciés dans les cours d'auberge par les pèlerins ou par les dames dans leurs châteaux, ils charriaient et par les éléments du roman auxquels l'époque ne permettait pas de prendre forme. Car c'est parce que nous savons ce que devait être le roman que nous pouvons en trouver les origines dans la poésie occitane, dont le Finéamor, influencé par l'inspiration arabo-andalouse, élabore un code amoureux qui inspira à contre-cœur Chrétien III. Et dans les poèmes occitans, un code amoureux fait pour Stendhal. Mais le roman médiéval reste soumis à une conception conventionnelle et bien établie de la vie qui lui ferme l'accès au roman. Donc, quelques remarques sur ce début de récit du genre romanesque. Nous aurons la suite tout à l'heure. D'abord, Jacques Laurent choisit de raconter ce commencement par la négative, d'établir ce qui n'est pas le commencement du roman, en l'occurrence le roman de chevalerie. On se retrouve donc dans un récit de commencement qui se distingue nettement de celui de Barbedette en ce que celui-ci cherche à exclure plutôt qu'à inclure. Laurent oppose en quelque sorte le faux commencement, le roman de chevalerie, à sa véritable origine, la poésie occitane, posant ainsi, et un peu paradoxalement, l'origine du genre romanesque dans un autre genre. Mais Jacques Laurent n'est pas le seul à faire cela. Chez les critiques, Bakhtine, pour reprendre cet exemple, tire l'origine du roman du dialogue socratique et de la satire, et cela montre bien d'une certaine façon à quel point l'imaginaire des genres est interrelié. Si le roman de chevalerie ne peut être considéré comme roman, selon Jacques Laurent, c'est que les conditions pour que le roman existe ne sont pas encore réunies. Ces conditions, nous l'apprenons plus loin, sont celles de la sortie du mythe, de la tombée des certitudes religieuses, du délaissement de l'imaginaire merveilleux, etc. Or, dans l'extrait, cette impossibilité socio-historique et culturelle se traduit en termes spatiaux. En effet, parce qu'à l'époque médiévale, les éléments du roman, pour employer son expression, sont ballottés ici et là, tout comme le sont entre quête et errance les personnages que le roman de chevalerie met en scène. Et à ce sujet, je vous renvoie aux travaux de Normand Doiron sur les modes de déplacement dans l'espace à travers les divers âges de la littérature. Le roman, donc, charrié ici et là, ne peut prendre forme et ne peut se constituer en tant que genre. Encore une fois, nous nous retrouvons devant un récit de commencement et par extension une histoire du roman où le roman, en tant que genre, semble prendre pied à l'intérieur des œuvres elles-mêmes. Nous pouvons d'ores et déjà voir se profiler le type de personnification qu'opèrent les essais sur le roman, et c'est ce qui nous mène vers mon deuxième point, donc celui, le motif de la naissance. Chez Jacques Laurent, si la poésie occitane constitue l'origine du roman, elle n'en est pas pourtant le commencement concret. Jacques Laurent identifie deux commencements au roman situés à des siècles d'intervalle, à travers des œuvres, soit La princesse de Clèves et le Satyricon, et ces commencements sont pensés, sans surprise, sous le motif de la naissance, motif qu'empruntent plusieurs romanciers du corpus. Si le roman n'est pas « sorti de la cuisse de Jupiter », comme l'établit la toute première phrase de son essai qui m'a d'ailleurs servi de titre pour cette communication, c'est, entre autres choses, parce qu'il n'a pas et ne prétend pas avoir une origine divine ni aristocratique. « Le roman est un laïc dont la roture est parfaite », écrit Jacques Laurent à la suite de cette dernière phrase. Et je ne peux m'empêcher d'ajouter que si le roman est laïque et si le roman est roturier, c'est d'abord parce qu'il est humain. Mais je suis déjà en train d'anticiper et de sauter à une de mes conclusions partielles. Revenons au texte pour mieux connaître la suite de ce récit, de commencement relaté par Jacques Laurent. Après donc avoir posé l'origine du roman à la poésie occitane, le romancier essayiste fait non seulement naître le roman, mais multiplie les occurrences de ce verbe. Et c'est ce dont j'ai voulu vous donner un aperçu au point 3 de votre exemplier. Donc, je m'étais juré de ne pas trop vous bombarder de citations, mais finalement, voilà, il y en a quand même. Donc, je lis ça vite au point 3. Je commence la première. Le roman français n'est pas né de la perfection de la langue ni du trouble où le 17e finissant s'installait. Il est né des hasards de l'écriture, donc de hasards qui restent nos contemporains, mais ces hasards n'ont pu être efficaces que grâce à cette perfection et à ce trouble. Ici, il fait référence à la naissance du roman à travers La princesse de Clèves. Encore une fois, sur ce même roman, mais pour parler du genre romanesque en général, je cite, « Le roman est né au moment où la langue mettait à la disposition d'un écrivain, une dame autodidacte qui, après instruction négligée, avait été obligée de prendre des cours du soir auprès de Ménage, de Segret et de La Rochefoucauld, de telles ressources qu'une agrégée du 20e ignore qu'on peut en user. » Troisième, tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une quinzaine de siècles, le roman naissait avec le Satyricon. Son héros en couple exploite tant bien que mal, à l'aveugle, cherchant son plaisir sans trop bien le connaître, et peut-être une morale, comme Stendhal, une société qui n'est pas encore irréglée, mais déréglée. La quatrième, ses livres supposent des sociétés desserrées dont chaque... Bon, là, ici, il parle de Satyricon et de la princesse de Clèves à la fois, là. Ces livres supposent des sociétés desserrées dont chaque membre se heurte à des questions et n'attend la réponse que de lui-même. Il faut ce flou pour que le roman naisse ou renaisse, et que ce flou ne suffise pas, il serait inutile de m'en convaincre, puisque je ne demande qu'à insister sur l'importance préalable d'un état de perfection de la langue, de la tâche de Cervantes à Furtière, que de Cervantes à Furtière, les nettoyeurs du pré-roman ont accompli, et du hasard qui fait en sorte que Madame Lafayette était douée. Les critiques Jean Bessières, qui s'est lui aussi intéressé au motif du commencement du roman, n'hésite pas à parler d'une fable du commencement du genre qui accompagne le romanesque dès qu'il est question de son histoire et qui lui est en quelque sorte intrinsèque. Fable qui est, je le cite à nouveau, constamment déplacée, constamment reformulée. Chez Laurent, on dénote véritablement ce besoin de formuler et de reformuler le commencement du genre à travers cette insistance sur le motif de la naissance. Il ne s'agit pas non seulement de le faire naître, il ne s'agit pas seulement de faire naître le roman avec le Satyricon, mais aussi de le faire renaître avec la princesse de Clèves, double naissance choisie, voire arbitraire, qui fait que, comme nous l'avons vu plus tôt, les romans de chevalerie ne sont pas véritablement des romans et qui relèguent Cervantes, véritable père fondateur pour d'autres, au rang de simple, je cite, comme nous venons de le voir, nettoyeur du pré-roman. Quoi qu'il en soit, et pour sortir de l'exemple plus spécifique de l'essai de Jacques Laurent, si le commencement du genre prend souvent la forme spécifique d'une naissance, ce n'est pas simplement parce que la naissance est synonyme de commencement, mais précisément parce qu'elle est le commencement d'une vie. Ce fut un de mes constats premiers en travaillant sur ce corpus. Les romanciers essayistes accordent volontiers un principe de vie au genre romanesque dont ils écrivent l'histoire. Contre toute attente, il peut s'agir d'une vie animale, et je vous renvoie ici au point 4 sur l'exemplier, où Milan Kundera, dans son essai « Les testaments trahis », apparente la naissance du roman à celle d'un papillon, naissance qui s'effectue ici avec Rabelais. Donc je la lis, elle est située au point 4. « Heureux temps de Rabelais, le papillon du roman s'envole en emportant sur son corps les lambeaux de la chrysalide. » Pantagruel, avec son apparence de géant, appartient encore au passé des contes fantastiques, tandis que Panurge arrive de l'avenir alors inconnu du roman. Le moment exceptionnel de la naissance d'un art nouveau donne au livre de Rabelais une incroyable richesse. Passage très intéressant dans la mesure où la naissance du roman, pensée sous le mode de l'éclosion du papillon, fait cohabiter différentes temporalités, le papillon transportant sur lui les lambeaux de son passé, celui de l'univers du conte. Et pour dire cela, Milan Kundera, notons-le, ne fait pas l'économie d'une référence au corps géant de Pantagruel, et voilà qui nous tire déjà vers une forme anthropomorphe. En effet, l'imaginaire de la naissance du roman est le plus souvent associé à la vie dans ses formes humaines, comme ici chez Julien Gracq dans son essai « En lisant, en écrivant », à la station numéro 5, je cite, « Je poursuis distraitement la lecture du Wilhelm Meister, roman cotonneux et si excessivement convenable qu'il semble être venu au monde, tout langé déjà des brumes de la pudeur. » Si, notons-le, il est moins question ici du genre romanesque que d'un roman en particulier, le roman y prend néanmoins l'allure d'un nouveau-né, et j'en profite pour ajouter que le processus de personnification qui s'opère dans les essais du corpus touche aussi bien les œuvres romanesques singulières que le genre qui les englobe. On fait naître le roman comme genre, et de même, on fait naître certaines œuvres singulières, tout comme on dote le roman d'un corps et on lui confère une vie. Ces deux traits communs récurrents, des histoires du roman narrées par les essais sur le roman sont pour moi fortement liés. Les romanciers, dans leurs essais, en racontant l'histoire du genre romanesque, tracent le corps du roman, et ce corps acquiert justement très souvent des caractéristiques humaines. Il est parfois question de ses attributs physiques et de ses pathologies. Nathalie Sarraute, dans L'ère du soupçon, oppose, je cite, « le jeune roman américain » et sa vigueur un peu rude au, je cite, dessèchement sénile du roman français. Parfois de son poids et de sa silhouette, Richard Millet évoque sa minceur formelle, sa maigreur stylistique et son, je cite, obésité morale. Julien Gracq s'intéressera plutôt quant à lui à la circulation de son sang, à sa dépense énergétique et à son énergie vitale. Plus généralement, le motif de la naissance permet de mettre en place une logique plus globale de la personnification. Le roman n'a pas seulement un corps, il est tantôt question des divers âges de sa vie. Gilles Barbedette déplore ce moment où, je cite, « on l'a prié de ranger ses jouets et de prendre une pause plus responsable ». Fin de la citation. Il a aussi une personnalité et prend part à diverses aventures. En effet, non seulement les essais des romanciers sur le roman comportent une très forte dimension narrative, mais dans leur manière de penser l'histoire du roman, ils engagent un récit dans lequel le roman devient un personnage, voire le protagoniste de sa propre histoire. Bref, il forme en quelque sorte des romans du roman, comme l'indique d'ailleurs le titre de l'essai de Jacques Laurent. Écrire l'histoire du roman, c'est donc en quelque sorte écrire l'histoire de sa vie. Ainsi, tout romancier essayiste qui choisit de faire naître le roman quelque part et à un certain moment dans l'histoire, qui choisit d'en faire un être biologique, c'est-à-dire un être pris dans le temps, ne peut faire autrement que, et de façon tout à fait conséquente, évoquer sa mort prochaine ou probable. Et c'est mon troisième point, au motif de la naissance du romanesque qui répond celui de sa mort. La logique est la suivante, et elle est largement répandue chez les romanciers essayistes, quand ne sont plus réunies les conditions qui ont fait naître le roman et qui lui permettent de vivre, le roman meurt, il s'éteint. Cette mort coïncide à peu près toujours avec l'époque qui est contemporaine aux romanciers essayistes, comme si, depuis les années 1950, le roman traversait une crise perpétuelle. Cette mort imminente, ainsi l'exprime Richard Millet dans son essai « L'enfer du roman ». Nous sommes au point 6. Je cite « Le roman est né de la fragmentation de la totalité, de l'écho anticipé et postérieur de la mort de Dieu, et l'époque actuelle ne fait qu'accomplir cette fragmentation, laquelle ne peut qu'aboutir à ce mauvais infini qu'est la parodie de la parodie, la mise en abîme du kitsch et, disons-le franchement, la non-valeur absolue comme figure du mal. » Un peu plus loin, je cite à nouveau « Si le roman a commencé un jour et a inauguré avec Cervantes les temps modernes, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'achève pas, et même pour qu'il ne soit pas déjà fini, sa postérité n'étant ni la parodie, ni sa perpétuation infernale, mais le deuil magnifique qu'emmènent certains écrivains. » Si tout le propos de l'essai de Millet a pour thème la longue agonie du roman, le romancier controversé n'est pas le seul à constater, ou du moins à prédire, la mort du romanesque. Chez Milan Kundera, c'est plutôt est la question actuelle de l'imitation et du droit d'auteur qui menace le roman, qu'il choisit de faire naître cette fois du principe de création inimitable et d'appartenance totale d'une œuvre à son auteur. C'est la numéro 7, l'avant-dernière. Depuis Cervantes, je cite, « Voilà la marque première et fondamentale d'un roman. C'est une création unique et inimitable, inséparable de l'imagination d'un seul auteur. La naissance de l'art du roman fut liée à la prise de conscience du droit d'auteur et à sa défense féroce. Le romancier est le seul maître de son œuvre, il est son œuvre, il n'en fut pas toujours ainsi, il n'en sera pas toujours ainsi, mais alors, l'art du roman, l'héritage de Cervantes, n'existera plus. » Enfin, chez Jacques Laurent, les dangers actuels qui mettent en péril le roman sont si nombreux qu'il n'est guère plus possible de les compter sur le doigt de la main, et c'est mon dernier extrait, il porte le numéro 8. Je cite, « Le roman peut mourir, au début du premier millénaire, il n'est apparu que pour s'évanouir. » Je vais m'arrêter ici pour la citation. Je ne lirai pas complet. Bon, ben, juste le mot « ressuscité » qui m'intéresse. « Ressuscité à travers le Picarès et la princesse de Clèves, il n'a guère que 3 siècles d'existence. » Je vais conclure maintenant en soulignant que Jacques Laurent n'imagine pas simplement le roman disparaître, il imagine précisément mourir. Il parle aussi, nous venons de le lire, d'évanouissement, de résurrection, et pour moi, l'usage de tous ces termes reliés à la vie n'est pas anodin. En effet, j'aimerais vous soumettre une de mes hypothèses de travail qui demeure extrêmement embryonnaire pour l'instant. Le devenir vivant du roman qui s'opère dans les essais sur le roman ayant été écrit par des romanciers, ce devenir vivant qui rime souvent avec personnification et anthropomorphisation, ce devenir vivant donc qui met en évidence le motif de la naissance et son corollaire, comme j'ai tenté de le montrer, celui de la mort, rapproche ce corpus somme toute assez contemporain et l'imaginaire qu'il déploie d'une certaine branche de la critique littéraire du début du 20e siècle. Plus précisément, je pense à la critique littéraire évolutionniste dont Ferdinand Brunetière, avec son évolution des genres littéraires dans l'histoire de la littérature française, est le grand représentant. Pour Brunetière, qui entreprend d'importer les grandes lignes de la théorie darwinienne de la sélection naturelle pour expliquer l'histoire de la littérature française, les genres ont une vie propre, ils naissent et meurent, ils évoluent, se transforment. Ils ont différents stades de vie, enfance, âge adulte, vieillissement, décadence, mort. Ils ont une existence à la fois sur le plan de l'espèce et sur le plan individuel. Sa théorie, comme l'a dit Jean-Marie Schaeffer, représente, je cite, « l'aboutissement du paradigme biologique dans la conception du genre littéraire ». Fin de la citation. Paradigme qui, notons-le, englobait déjà Aristote qui traitait déjà le genre littéraire comme un être naturel et qui englobera quelques années plus tard Bakhtin qui partage aussi cette vision évolutionniste et n'hésite pas à parler de la vie même du genre. Et je vous renvoie ici au chapitre 4 de sa poétique de Dostoïevski. Pourquoi donc les essais sur le roman partagent-ils, à mon sens, cet imaginaire de type biologique avec une critique littéraire que l'on pourrait dire issue d'un autre temps? Je ne suis pas tout à fait certaine d'avoir la réponse à cette question. L'idée, bien sûr, n'est pas de dire que ceux-ci ont lu Ferdinand Brunetière, loin de là, mais plutôt de pointer le fait que subsiste peut-être quelque chose de cette logique jugée par certains scientistes et dépassée, surtout dans le cas de Brunetière, dans la façon d'envisager le genre littéraire. Ce lien réside peut-être dans le fait que le paradigme évolutionniste cherchait à expliquer la littérature par elle-même, c'est-à-dire en contournant l'histoire littéraire traditionnelle qui misait énormément sur le contexte et la vie des auteurs. C'est assurément une des visées des histoires littéraires alternatives du genre romanesque qui se déploie dans les essais sur le roman, car attribuer une vie au genre, c'est aussi l'autonomiser, le libérer et ouvrir les possibles de l'imaginaire.